Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Libre pour apprendre. Alors, des enfants qui n'ont pas de programme, pas d'évaluation notée, mais comment se passe l'école et l'instruction dans de telles conditions? On en parle dans ce podcast. On met en route la saison 2.
Libre pour apprendre, le podcast des facilitateurs et des parents qui accompagnent les enfants dans des apprentissages libres et autonomes. L'entrée dans un tel paradigme d'apprentissage implique de multiples défis. Vous vous trouvez peut-être face à des attentes, des peurs extérieures ou intérieures à vous-même. Vous observez les difficultés des enfants dans leur capacité à se tourner vers ce qui les anime, à s'engager dans des activités qui les enthousiasment, à passer à l'action, à s'organiser, à surmonter des obstacles ou à gérer les conflits et à se socialiser. Vous vous demandez comment les soutenir davantage. Libre pour apprendre apporte des réflexions, des axes de compréhension, des partages d'expériences et de compétences. Chaque facilitateur ou parent pourra se nourrir de ce qui résonne afin d'accroître sa confiance dans ce modèle d'accompagnement. Vous trouverez des pistes pour développer vos compétences afin d'amener les enfants que vous accompagnez à s'autonomiser davantage dans leurs apprentissages et leurs compétences sociales. Je suis Gypsy Nussbaum. Pendant quelques années, j'ai cheminé avec mes enfants en instruction en famille. Puis, j'ai cofondé une école aux apprentissages libres et autonomes. Je suis enseignante, enseignante spécialisée, éducatrice spécialisée et coach. Je vous propose un partage d'expériences, de compétences, un échange de questionnements. Ce podcast se veut dynamique et interactif, alors vos questions et commentaires sont bienvenus afin de grandir ensemble.
Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour la saison 2. J'ai envie, dans ce premier épisode, de balayer à nouveau un petit peu les différents thèmes qui vont être traités à l'intérieur du podcast, en particulier dans la saison 2, mais aussi dans des épisodes ultérieurs, où peut-être que certaines thématiques vous questionneront plus que d'autres, et à ce moment-là, vous pourrez l'indiquer dans les commentaires, et je pourrai peut-être approfondir le sujet moi-même, ou trouver des intervenants qui pourront approfondir ce sujet s'il vous touche, s'il vous questionne. Alors, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si le sujet vous intéresse. Donc, nous allons parler déjà des peurs qu'il peut y avoir des parents, de la société. Nous allons aussi aborder un petit peu les questions autour de l'enfant, de comment il apprend et qu'est-ce qui peut le motiver, de comment on soutient l'enfant dans son autonomie si on veut des apprentissages qui deviennent de plus en plus autonomes, de comment faire face quand un enfant est en difficulté, et aussi des types de gouvernance qu'on peut trouver à l'intérieur, cette fois-ci plus quand on fait justement du unschooling, mais plus dans les écoles, aux apprentissages libres, et aussi bien quels sont les moyens didactiques qu'on peut mettre en place, et là ça concerne autant les écoles que les parents en instruction en famille. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu juste de moi, de mon parcours brièvement, par rapport à mes compétences que j'aimerais introduire à l'intérieur du podcast, que j'aimerais partager. Donc, si on reprend les peurs, les attentes, eh bien, j'aimerais pouvoir questionner différents types de peurs à l'intérieur du podcast, pouvoir réaliser différents épisodes qui vont concerner parfois les peurs et les attentes des parents. Quand on fait l'instruction en famille, forcément qu'il y a un certain nombre de peurs et d'attentes aussi vis-à-vis de notre enfant qui font qu'on peut être en tension, qu'on peut être aussi inconfortable. Mais ces peurs peuvent se retrouver aussi quand on a un enfant dans une école aux apprentissages libres. Et à ce moment-là, elles vont impacter peut-être au niveau de l'école, au niveau de l'équipe des facilitateurs. Comment, en tant que facilitateur, on peut aussi se distancer de la peur des parents ou soutenir aussi des supports, des moyens pour qu'ils développent eux-mêmes, ses parents, plus de résilience, plus de capacité à dépasser ses peurs. Il y a aussi toutes les peurs de la société, la pression extérieure qu'on connaît bien en instruction en famille. Entre autres, maintenant, il y a des évaluations qui n'avaient pas lieu il y a un certain temps, mais Actuellement, comme ça prend aussi plus d'essor, les autorités se questionnent davantage sur les contrôles. Et dans beaucoup d'endroits, moi je suis en Suisse, mais en France aussi, il y a maintenant des évaluations périodiques qui sont au moins annuelles, et au Canada aussi, par rapport à l'évolution de l'enfant, par rapport au programme scolaire, au socle commun des compétences ou au plan d'études ici en Suisse. Et ces peurs, ces pressions, mais aussi des fois la pression du voisinage, de dire, ah, votre enfant, il est dans une école pas comme les autres, etc., etc. Donc il y a plein de pressions de la société autour de ces moyens différents d'apprendre, et puis qui questionnent beaucoup nous-mêmes déjà, mais en même temps l'entourage, et qui peuvent encore impacter davantage sur nos propres peurs. Donc on va aussi pouvoir en parler dans certains épisodes. J'aimerais aussi pouvoir parler de la mise en action des enfants. Donc, se mettre dans des apprentissages libres et autonomes, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique entre autres une capacité à passer à l'action, à sortir de tout ce qui est de la temporisation, mot pas évident, ou de la procrastination, mot encore moins évident peut-être. Donc, de sortir de là, de passer au-delà, mais aussi à un moment donné, qu'est-ce qui est important si un enfant ne fait rien? D'observer, est-ce qu'il est en train justement de temporiser, de rejeter le passage à l'action? Ou est-ce qu'il est juste en train de chercher parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire, ou parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre et que là il a besoin de plus de moyens, d'outils, ou parce qu'il est dans une difficulté et puis qu'il a passé à l'action un petit bout, mais qui devra être soutenu pour un autre? Donc, il y a plein de questions autour de ce passage à l'action que j'aimerais aborder. Il y a aussi tout l'aspect de la vie en collectivité. Alors là, il y a beaucoup de questionnements de la part des parents en instruction en famille, entre autres, autour de la capacité à socialiser, les enfants. Et moi, ça m'a toujours questionnée aussi, cette idée de certaines personnes qui disaient que des enfants en instruction en famille ne sont pas socialisés. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas. Et je parlerai aussi beaucoup des outils qu'on utilise, entre autres, nous, à l'école, dans une école aux apprentissages libres, où nous pratiquons la gestion de conflits, la communication non violente en grande partie. Et de comment est-ce qu'on peut aussi transposer ça dans l'instruction en famille pour que les enfants apprennent justement des moyens, des techniques de communication qui peuvent les soutenir en les ayant appris directement avec le parent ou avec les frères et sœurs. Eh bien, ça va impacter forcément leur vie sociale et leur capacité à entrer en interaction dans de bonnes conditions avec des personnes qui seraient extérieures à la famille. Ensuite, il y a aussi toute la question de, eh bien, dans une école aux apprentissages libres ou dans le unschooling, il y a cette envie en fait que l'enfant développe ses propres talents, qu'il aille vers qui il est vraiment et puis qu'il puisse permettre par ce développement de contribuer à un environnement, une société. Donc il y a là toute la question de comment est-ce qu'un enfant justement peut entrer en interaction, peut collaborer avec les autres, et le fait de collaborer va forcément impliquer qu'à un moment donné, eh bien, il y a des conflits et des tensions. Donc dans le chapitre que je vous disais tout à l'heure, on va voir un petit peu les moyens de pouvoir passer au-delà de ces conflits qui seront forcément existants. On va pas passer à côté. Et en même temps, aussi comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'enfant à aller au plus proche de lui dans une société qui en fait nous amène sans cesse à ne pas être proche de nous, mais où je l'observe de plus en plus à l'école en fait, où en fait l'enfant il est happé toujours dans un système de consommation et qu'il va devenir aussi, qu'il va en fait se prendre dans un fonctionnement consumériste à l'intérieur de l'école. Donc je suis libre de ne rien faire et de ne pas aider, de ne pas contribuer et de ne pas ci et de ne pas ça. Et comment est-ce que là on peut dire non, stop, il y a le collectif et il y a une obligation de contribution, mais en même temps, il y a toi et qui tu veux être toi, qui tu es toi profondément, sans toutes les influences de toutes les choses commerciales qui veulent. On a vu entrer dans l'école les Pokémon, on a vu entrer. Il y a une limite chez nous par rapport à l'informatique et aux jeux vidéo, mais elle n'est pas présente partout. Donc comment est-ce qu'on se laisse happer par des choses que la société veut nous imposer? Et puis en fait, où il y a, par exemple dans les jeux vidéo, on sait qu'il y a des armées de psychologues ou dans les réseaux sociaux qui vont travailler sur comment les gens réagissent pour faire fonctionner leur système de la récompense. Et finalement, quand un enfant fait le choix de faire telle ou telle activité, est-ce qu'il souhaite vraiment, parce que c'est quelque chose qui lui plaît, qui lui amène vraiment la satisfaction dans sa vie, ou est-ce qu'il est en train de chercher une gratification sociale, de faire fonctionner son système de la récompense, mais sous la pression d'autre chose? Et ça questionne vraiment. Il y a aussi toute la question de comment soutenir l'autonomie. Justement, les enfants sont amenés à pouvoir se débrouiller de plus en plus de manière autonome. Alors l'autonomie ne voulant pas dire l'indépendance. On ne cherche pas à faire que ces enfants sachent tout faire tout seuls, mais qu'ils soient capables d'aller chercher les ressources et les moyens nécessaires au bon endroit quand ils en ont besoin. Donc il s'agit vraiment que l'enfant puisse formuler des demandes claires, qu'il puisse trouver aussi des ressources, savoir avec quels moyens didactiques, par exemple, il va apprendre le plus facilement, et qu'il puisse mettre en place les choses qui lui correspondent le mieux et aller trouver l'information là où au moment où il en a besoin et à l'endroit où il pourra la trouver. Il y a au-delà de ça, tout l'aspect des enfants, et ça c'est assez connu dans les écoles alternatives, on voit qu'encore peu de gens au niveau de la société se questionnent sur le fait d'un enseignement autrement, d'une école autrement. Et le moment où les adultes s'interrogent, se posent ces questions, c'est souvent quand il y a une difficulté pour leur enfant. Rarement, quand ça se passe plutôt bien à l'école publique, eh bien, le parent va se questionner sur le fait que cette école est-elle vraiment ce qu'il y a de plus adéquat et adapté pour mon enfant. Est-ce que c'est l'endroit dans lequel il s'épanouit? Alors, je ne dis pas que l'école publique n'a pas ses qualités. Moi, j'ai vu des enfants quitter une école aux apprentissages libres après avoir bien réfléchi et puis se dire qu'en fait, pour eux, c'était plus simple de retourner dans un milieu où les choses étaient clarifiées de l'extérieur, imposées de l'extérieur, parce que s'imposer sa propre discipline intérieure, autodiscipline, de faire les choses par soi-même, eh bien c'est des fois beaucoup plus énergivore et beaucoup plus demande beaucoup plus de volonté. Et ces enfants, au bout d'un moment, ont dit « Ah, pour moi, ça sera quand même plus simple de retourner à l'école publique parce que j'ai envie quand même d'apprendre toutes ces notions qui sont enseignées. Et c'est plus simple pour moi de le faire dans un cadre qui est construit que d'en plus devoir moi construire tout le cadre. » Donc il y a des moments, à certaines périodes de la vie, après s'être posé certaines questions, je pense que le système de l'école publique peut être tout à fait adéquat. Mais on voit que il y a beaucoup de parents qui se questionnent en fait plus sur cette adéquation au moment où les enfants sont en difficulté. Donc à certains moments, j'aimerais pouvoir avoir aussi des intervenants extérieurs, des professionnels qui sont des spécialistes pour aussi traiter certains aspects des difficultés que peut rencontrer l'enfant qui sont inhérents à, par exemple, des 10 ou le trouble de déficit d'attention, les hyperactifs, tout ce qui est du trouble du spectre autistique ou ce genre de difficultés qu'on peut retrouver assez fréquemment dans des écoles alternatives. Ensuite, il y a aussi la question aussi du harcèlement qui peut être posé, et puis de comment est-ce qu'on sort un peu de ce triangle de Cartman, donc de victime, bourreau, sauveur. Voilà, ces thématiques qui peuvent se retrouver parce que vécues, parce que les parents font des choix différents, mais suite à des difficultés qui sont nécessaires de traiter parce qu'on va les retrouver en fait au sein des écoles alternatives dans lesquelles les parents auront fait le choix de placer l'enfant. Il y a aussi tout l'aspect que j'aimerais ouvrir en fait par rapport au plan d'études et au socle commun des compétences, donc qui sont déjà très complets, très riches, il y a quand même certains éléments, certaines choses que je trouve parfois intéressantes d'intégrer un petit peu, et puis de pouvoir ouvrir l'école à d'autres choses. Par exemple, j'ai invité prochainement, vous aurez le podcast, d'une personne qui a fait des ateliers philo avec les enfants. Alors la philosophie est étudiée plutôt au niveau du lycée, dans les programmes scolaires, et il ne s'agit pas d'inviter les enfants à philosopher, mais plutôt à connaître les grands philosophes des différentes époques. Et là, l'idée, c'est plus, ben, déjà avec des petits, comment on peut amener les enfants à se questionner, à avoir des questionnements philosophiques autour des choses du quotidien de leur vie. Et c'est très intéressant comme expérience, même déjà avec des petits de 4 ans. J'aimerais finalement, ou presque finalement, vous parler de la gouvernance, c'est-à-dire des modèles qui peuvent être mis en place dans des écoles de nouveau pour la prise de décision. Alors, aborder par exemple la démocratie, que je vis ici moi-même en Suisse, où on a des démocraties directes, même comme ça se fait dans les écoles démocratiques à plusieurs endroits. Ici en Suisse, j'ai l'expérience aussi de la démocratie directe dans un village où les gens vont voter à main levée, où la majorité l'emporte en fait sur les décisions communales. Et le fait que dans l'école où je travaille, on a opté plutôt pour la sociocratie. La sociocratie qui se différencie beaucoup de la démocratie dans le sens où en fait on ne vote pas à la majorité, mais on prend les décisions à zéro objection. Il ne s'agit pas que tout le monde soit d'accord, mais au moins qu'il n'y ait plus d'opposition. Donc, de parler aussi un petit peu de ces systèmes de gouvernance. Il y a finalement, cette fois-ci, tout l'aspect didactique, mais peut-être que là, je vais plus me référer à ma chaîne YouTube. Alors, peut-être que vous m'écoutez sur cette chaîne. Sinon, c'est indiqué dans la barre de description. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, où il y a parfois des explications sur des moyens didactiques qui pourraient être un soutien dans les apprentissages autonomes. Et puis, donc, par rapport à toutes ces thématiques, donc, moi, j'ai fait pendant un temps l'instruction en famille avec mes enfants. Et ensuite, j'ai cofondé une école aux apprentissages libres et autonomes qui est basée donc sur le fait qu'il n'y a pas d'évaluation notée. Les enfants apprennent à s'auto-évaluer. Et il n'y a pas non plus de programme imposé. Ce sont les enfants qui construisent leur propre programme, qui réalisent leur propre projet. Donc, c'est sur ces deux expériences-là que je vais m'appuyer le plus, avec mes compétences qui sont celles d'être enseignante, déjà au départ. Ensuite, je suis éducatrice spécialisée. J'ai une formation ensuite d'enseignante spécialisée et j'ai plusieurs autres formations qui peuvent me servir aussi parfois, telles que la formation de coach, qui peut être utile justement pour dépasser les croyances limitantes ou le fait de procrastiner. Et aussi bien tout ce qui est du management, où je me suis aussi formée dans ce domaine-là. Donc voilà un petit peu pour les différents axes et puis un petit peu les sources, les appuis, les connaissances que j'ai qui pourraient aider à un peu traiter ces questions. Alors, c'est aussi volontiers que, comme je vous l'ai indiqué, que j'invite des intervenants, des professionnels et aussi des gens qui pourraient témoigner de leur propre expérience, soit en unschooling, soit dans des écoles telles que les écoles démocratiques ou des écoles où il y a la liberté de choix des apprentissages. Alors parfois de témoigner de réussite, mais aussi peut-être de différentes difficultés qui apparaissent dans ces écoles. Alors vous pouvez, donc si tout ce programme vous plaît, vous convient, eh bien pensez à vous abonner pour être averti des prochaines publications sur cette chaîne. Et moi, je me réjouis de lire vos commentaires, de partager vos questions et de pouvoir peut-être y répondre dans de prochains podcasts. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!